Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel du jeudi 2 mai. Jacques Aristide et Raïssa Girondin en votre compagnie. Voici les titres.
Du nouveau dans le massacre à Dogossagou au Mali, l'ONU parle d'une attaque planifiée, organisée et coordonnée.
Au Bénin, au moins un mort dans les affrontements post-électoraux, des centaines d'opposants à nouveau dans les rues de Cotonou.
Au Venezuela, le président Nicolas Maduro appelle l'armée à combattre tous les putschistes. L'opposant Juan Guaido appelle, lui, à une grève générale.
Ici, aux États-Unis, le secrétaire d'État à la justice, William Barr, refuse de se rendre à l'audition devant la commission judiciaire de la Chambre dominée par les démocrates.
Ne manquez pas non plus vos rubriques économiques et sportives, mais d'abord le journal.
Au Bénin, deuxième journée consécutive de tensions à Cotonou, les manifestations démarrées mercredi se sont poursuivies ce jeudi avec des actes de violence. On dénombre au moins un mort, des blessés et des dégâts matériels importants suite à des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. Notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adande, fait le point de la situation.
L'accalmie observée mercredi à Cotonou n'aura duré que quelques heures. La violence et les destructions de biens publics et privés a repris de plus belle. D'abord dans le quartier de l'ancien président Boniaï, avant de se propager un peu partout à Cotonou. Fait étrange, la rue menant au domicile de l'ancien président a été barricadée, dit-on mystiquement, par des hommes, talismans et gris-gris en main. Ils y font des rituels pour, disent-ils, barrer la voie aux forces de l'ordre. Ils sont quelques meneurs à brûler des pneus, à lancer des jeux des pierres et à bloquer la circulation. Ils sont tout de même encouragés par quelques passants qui leur demandent d'aller jusqu'au palais de la présidence. Aurélien Aguenucci, le ministre des Affaires étrangères, a expliqué que certains des jeunes délinquants ayant semé le trouble mercredi ont été arrêtés. On ignore tout de même le nombre de personnes appréhendées. La Cour constitutionnelle procède ce jour à la proclamation définitive des résultats de Cotonou. Ginette Leu dans l'épouvée au Afrique.
Le Niger. Au Mali, le massacre fin mars de près de 160 habitants du village Peul Dogossagou, dans le centre du pays, a été une attaque planifiée, organisée et coordonnée et pourrait être qualifiée de crime contre l'humanité. C'est ce qu'affirme aujourd'hui la mission de l'ONU dans ce pays. Le point avec Driss Fall.
Selon les conclusions préliminaires de la mission d'enquête de la MINUSMA, le 23 mars, au moins 157 membres de la communauté Peul Dogossagou ont été tués par un groupe composé d'au moins une centaine d'hommes armés, identifiés comme des chasseurs traditionnels d'Ozo et accompagnés par une dizaine d'hommes en tenue militaire et d'autres en tenue civile qui ont, toujours selon la MINUSMA, mener une attaque planifiée, organisée et coordonnée. Une mission d'enquête a été dépêchée à Dogossagou du 25 au 29 mars. Selon la MINUSMA, les atteintes aux droits de l'homme documentées à Dogossagou pourraient être qualifiées de crimes contre l'humanité. Les auteurs de telles atrocités doivent être tenus responsables de leurs actes devant la justice, a déclaré le chef de la MINUSMA, Mahamat Saler Anadif, cité dans le communiqué.
Au Sénégal, le verdict du procès du chef religieux musulman Cheikh Bétio Tioune et d'une vingtaine de ses disciples sera rendu le 6 mai prochain. Claire Morin-Gibourg.
Le procès est rentré dans sa phase de délibération, a annoncé Thierno Niang, le président de la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Mbour. Le procès de Cheikh Bétio Tioune est très suivi au Sénégal. Le chef religieux musulman et certains de ses disciples sont poursuivis pour le meurtre de deux d'entre eux en 2012. Très médiatisé, ce procès s'est ouvert le 23 avril en l'absence de Cheikh Bétio Tioune. Selon sa défense, il est en soins intensifs en France. Le procureur Youssou Diallo avait requis lundi une peine de travaux forcés à perpétuité contre lui et 16 des prévenus. Les avocats des parties civiles ont réclamé 3 milliards de francs CFA en dommages et intérêts. Les avocats des prévenus ont de leur côté réclamé la relaxe dans ce dossier où il n'y a nulle preuve, selon eux.
Au Soudan, une immense foule de manifestants déferle ce jeudi devant le QG de l'armée à Khartoum pour réclamer un pouvoir civil, répondant à un appel d'une marche d'un million, marche qui a réuni plus de contestataires que lors du même appel il y a une semaine. Les ponts et les rues menant au complexe militaire dans la capitale étaient noirs de monde, alors que les négociations entre l'armée et les représentants du mouvement de la contestation sont au point mort.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali est le lauréat de l'édition 2019 du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Il a été nommé en raison de ses actions dans la région et en particulier pour avoir été l'instigateur d'un accord de paix entre la République fédérale démocratique d'Éthiopie et l'Érythrée, a expliqué l'institution dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Yémen, au moins 8 migrants africains sont morts de complications liées à des diarrhées contractées dans un centre de détention d'après l'ONU, qui s'alarme à des conditions de milliers d'autres parqués dans 3 camps. Des migrants de la Corne de l'Afrique passent par Djibouti avant d'entreprendre la périlleuse traversée en mer en direction d'Aden dans le sud du Yémen en guerre.
Le président vénézuélien Nicolas Maduro appelle l'armée à combattre ceux qu'il appelle des putschistes. C'était lors d'un discours ce jeudi, au lendemain de nouvelles manifestations. Abdourahmane Dia.
Nicolas Maduro, qui s'exprimait devant plusieurs milliers de soldats, a déclaré que son régime était en plein combat. Le moral doit être au maximum dans cette lutte pour désarmer tous les traîtres, tous les putschistes, a-t-il dit. La veille, le chef de l'État avait déjà assuré qu'il n'hésiterait pas à punir les responsables, selon lui, de la tentative ratée de soulèvement militaire auquel avait appelé Juan Guaido. Le chef de file de l'opposition avait revendiqué le soutien de soldats entrés en rébellion. La tentative de soulèvement militaire de mardi a provoqué des manifestations contre le président, mais dans la soirée, ce dernier a affirmé que la situation était sous contrôle. Le lendemain, à l'occasion de la fête du travail, des milliers de Vénézuéliens sont retournés dans la rue pour exiger son départ et soutenir Juan Guaido, qui est reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays.
Aux États-Unis, le bras de fer entre le ministre de la Justice et les démocrates se poursuit. William Barr n'est pas venu témoigner ce jeudi devant la commission des affaires judiciaires de la Chambre des représentants. C'était pour une audition consacrée au passage expurgé du rapport de l'enquêteur Robert Mueller sur le rôle de la Russie dans l'élection de novembre 2016. Le département de la Justice a dénoncé les conditions qu'il qualifie de sans précédent et d'inutiles sur le format de l'audition, notamment que les questions soient posées par les avocats de la commission. Mais pour Gerald Nadler, président de cette commission, William Barr a peur de témoigner vu à quel point il a été malhonnête, dit-il. Cela survient au lendemain d'une audition houleuse de plus de 4 heures au Sénat, au cours de laquelle l'attorney général a défendu sa gestion du rapport Mueller et essuyé des appels à la démission lancée par des élus démocrates.
Toujours aux États-Unis, le sénateur du Colorado, Michael Bennett, est venu grossir les rangs des candidats à l'investiture démocrate pour la présidentielle américaine de 2020. Une vingtaine de personnalités sont d'ores et déjà entrées en lice et d'autres envisagent de le faire. Âgé de 54 ans, Michael Bennett accomplit son deuxième mandat au Sénat. Il sera toutefois l'un des candidats les moins connus à l'échelle nationale. Les primaires démocrates débuteront en février de l'année prochaine dans l'Iowa.
Julian Assange s'oppose à son extradition vers les États-Unis. La justice américaine veut poursuivre le cofondateur du site Wikileaks pour piratage informatique en raison de la publication en 2010 de centaines de milliers de documents confidentiels, dont des rapports militaires sur l'Afghanistan et l'Irak, ainsi que des notes diplomatiques.
Les forces gouvernementales syriennes et leurs alliés russes ont intensifié leur bombardement des derniers retranchements rebelles dans le nord de la province de Hama et le sud de celle d'Idlib. Les positions visées se trouvent dans la zone de désescalade instaurée l'an dernier à la suite d'un accord entre la Russie et la Turquie. Washington a adressé cette semaine des mises en garde aux belligérants. Pour les Américains, le retour de la violence déstabilisera la région.
En Angleterre, après le report du Brexit, le gouvernement conservateur redoute un revers aux élections locales qui se déroulent ce jeudi, y compris dans le bastion de la première ministre Theresa May, proche de Londres. Ce scrutin a en effet lieu un peu plus d'un mois après la date à laquelle le Royaume-Uni aurait dû quitter l'Union européenne le 29 mars. Mais faute d'un accord au Parlement britannique, Theresa May a été contrainte de demander à deux reprises un report de ce divorce historique, aujourd'hui prévu pour le 31 octobre au plus tard.
7e art, pour terminer, jury annoncé, sélection complétée, le décor est désormais planté pour le 72e festival de Cannes qui s'ouvrira le 14 mai. Quentin Tarantino et Abdelatif Kechiche viennent de rejoindre la liste des réalisateurs prestigieux en compétition aux côtés de Pedro Almodovar, Ken Loach ou des frères Dardenne.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir.
Et c'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Nanit Dalani.
L'Angola devrait lancer son tout premier appel public à l'épargne cette année. Le pays établit une bourse nationale avec la privatisation de plusieurs sociétés d'État. Patricio Villard, PDG de la bourse Bodiva à Luanda, s'attend à ce que deux sociétés dont les noms n'ont pas été donnés soient introduites en bourse cette année avec un nombre plus important et non précisé pour 2020. Au Cameroun, 50 milliards de francs CFA ont été investis dans une usine de transformation de cacao à Kekem dans l'Ouest pour donner un nouvel élan à l'industrialisation du pays, rapporte la Tribune Afrique. Visant le marché mondial, la nouvelle unité a une capacité de transformer 32 000 tonnes de fèves de cacao et 25 600 tonnes de produits semi-finis. Le projet, qui permettra la création de plus de 25 000 emplois, devrait aussi accueillir une usine d'emballage. Il a bénéficié des fonds du Marocain Atijari Wafa Bank, du Camerounais Afriland First Bank et de l'assureur français AGF. Terminons avec la Côte d'Ivoire où le Conseil du Café Cacao a vendu les contrats à risque pour la saison 2018-2019 aux entreprises internationales parmi lesquelles Cargill, Sukden, Touton, Olam et Barrick Alebo. Ces sociétés contrôlent désormais 80% des contrats d'exportation contre moins de 60% deux ans plus tôt.
Il est l'heure maintenant de notre habituel tour d'horizon de l'actualité sportive. Nous retrouvons Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Jacques. Bonsoir à tous.
En football, ce soir les demi-finales de la Ligue Europa.
Oui, les Allemands de Eintracht Francfort reçoivent les Anglais de Chelsea. Et l'autre club de Première Ligue, Arsenal, va accueillir les Espagnols de Valence CF. Les deux rencontres se déroulent, Jacques, à la même heure, à partir de 19h, temps universel.
En Ligue des Champions, Bagassi, Liverpool n'a pas tenu hier soir face à Messi et le Barça.
Oui, le Barcelone, grâce à son efficacité et un sensationnel Lionel Messi, auteur d'un doublé, a fait un grand pas vers la finale de la Ligue des Champions en dominant sa demi-finale aller contre Liverpool 3-0 au Camp Nou. Le Barça, qui rêve d'un triplé championnat, coupe et Ligue des Champions et d'un premier titre dans l'arène des compétitions européennes depuis 2015, a été bousculé bien sûr par les Reds, mais Suarez à la 26e minute, puis Messi à la 115e et 82e minute, auteur notamment d'un but magique sur un coup franc direct, lui ont assuré un large succès avant le match retour prévu mardi à Anfield.
La Confédération africaine de football annonce l'utilisation dès les quarts de finale de la CAN 2019 de l'assistance vidéo à l'arbitrage.
Oui, selon un responsable de la Confédération africaine de football cité par Africa Top Sport, l'assistance vidéo de l'arbitrage sera utilisée dès les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 21 juin au 19 juillet en Égypte. Souleyman Waberi, président de la commission des arbitres de la CAF, a assuré à la presse que l'assistance vidéo ne sera utilisée ni lors de la phase de poule ni au deuxième tour de la compétition. Pour mieux les préparer à ce système, nombre d'arbitres candidats à officier les matchs de la CAN 2019 ont été formés sur l'utilisation de la technique de la VAR.
Football encore pour terminer. La République centrafricaine a un nouveau sélectionneur.
Oui, Jacques, il s'agit de l'ancien international congolais Bruce Abdoulaye, selon nos confrères de Africa Top Sports, ancien joueur de Clermont Foot ou encore Bourges Personnes durant sa carrière. Abdoulaye a rangé les crampons en 2017. Abdoulaye remplace au poste de sélectionneur de Fauves le Suisse Raoul Savoy, qui a échoué dans sa mission de qualifier les Fauves pour la CAN 2019.
Bagasekoura, merci bien.
Merci Jacques.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et c'est l'heure maintenant de vous proposer nos sujets magazine. Raïssa, Girondin et Jacques Aristide, toujours avec vous dans Le Monde aujourd'hui.
Retour au Bénin, où prévaut un climat tendu après les violences post-électorales d'hier. Des groupes de jeunes partisans de l'ancien président Boni Yayi s'étaient rassemblés autour de son domicile de Cotonou pour lui témoigner leur soutien. D'après eux, la police venait arrêter leur leader, symbole de l'opposition exclue des législatives, dont les résultats définitifs étaient attendus ce jeudi. Irénée Hermanoumbo fait le point avec le docteur Gadabel Didé. Il est professeur de philosophie politique à l'université d'Abomey-Calavi.
La tension est en train de s'apaiser. Le calme est en train de revenir, même si il y a encore quelques attroupements quand même dans des quartiers sensibles de Cotonou.
Comment expliquez-vous cette situation où le Bénin se retrouve aujourd'hui dans une situation de crise après des élections législatives?
Il y a plusieurs raisons à cela, mais je crois que la raison immédiate, c'est l'organisation des élections législatives exclusives sur fond de l'égalité constitutionnelle dans un climat sociopolitique tendu. Et ce climat sociopolitique tendu est surtout marqué par le refus de rechercher le consensus. Or, ce qui a fait juste là le génie du peuple béninois et de sa classe politique, je crois bien que c'est la volonté d'en arriver à un consensus à chaque fois que notre démocratie est confrontée à une maladie mortelle. Mais il y a une autre raison fondamentale selon nous, c'est l'absence de leader charismatique capable d'imposer le dialogue franc et sincère au camp antagoniste, la mouvance et l'opposition.
Le président de la République avait tendu la main à l'opposition récemment, à rencontrer plusieurs leaders de l'opposition.
Oui, mais ce n'était pas un dialogue franc et sincère. La ruse l'a emporté sur le dialogue franc et sincère qui a toujours marqué les Béninois. On remarquait plutôt une volonté délibérée de tendre la main et en même temps de tordre le cou à la recherche du consensus.
Alors, Monsieur Didet, les présidents Soglo et Yayi ont donné il y a quelques jours un ultimatum de 24 heures au président Talon pour non seulement annuler les élections, mais aussi présenter des excuses au peuple. Est-ce à votre avis une bonne démarche?
Je crois que la démarche n'est pas saluée. L'ultimatum lancé par ces anciens chefs d'État, pour moi, n'est pas la solution appropriée. Il faudrait ramener la balle à terre plutôt et chercher des portes de sortie honorables. On aurait pu lui demander de chercher les voies d'un dialogue inclusif pour permettre aux uns et aux autres de sortir honorablement de cette crise.
Parlons justement de portes de sortie. Quelles sont les possibilités d'une éventuelle sortie de crise aujourd'hui?
Ce qui est urgent, c'est l'organisation d'un dialogue inclusif entre leaders de l'opposition et de la mouvance pour en arriver à un consensus. Mais il faudrait aussi que la communauté internationale puisse faire pression sur ces différents leaders pour les amener à abandonner les attitudes extrémistes, les attitudes va-t-en-guerre. Mais je pense que le premier qui a une responsabilité énorme dans cette crise, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui est l'élu de la nation et c'est lui qui doit gouverner, trouver les voies et moyens pour qu'il y ait la paix chez lui.
Le politologue Gadabel Didé était en ligne de Cotonou.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
voaafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite.
Mini tournée sahélienne de la chancelière allemande Angela Merkel achève aujourd'hui sa visite entamée hier à Ouagadougou. Madame Merkel a beaucoup parlé de la situation sécuritaire et de la coopération entre les deux pays dans ce domaine. Son séjour dans la capitale burkinabé coïncidait avec un sommet des chefs d'État du G5 Sahel, comme nous le rapporte notre correspondant Issa Napon.
Le renforcement de la coopération bilatérale entre l'Allemagne et le Burkina Faso et la situation sécuritaire de la sous-région sont au menu de cette visite de la chancelière allemande. Angela Merkel marque ainsi son intérêt pour la question du terrorisme avec sa participation à ce sommet extraordinaire du G5 Sahel. Avec leur homologue allemande, les présidents du Tchad, du Mali, du Niger, de la Mauritanie et du Burkina Faso ont passé en revue la situation en Libye, au Soudan et en Algérie avant de faire le point sur la lutte contre le terrorisme, notamment l'opérationnalisation de la force conjointe du G5 Sahel. Des sacrifices ont été déjà consentis, note le président du Faso. Pour autant, ils ne peuvent produire des résultats tant que certaines questions d'intérêt comme la Libye ne sont pas réglées, prévient Roch Kabore.
Au-delà des efforts que nous sommes en train de fournir, si les questions comme la question libyenne ne sont pas résolues, ce sera des efforts qui seront vains. C'est une zone de trafic de tous ordres. Nous avons demandé aux grandes puissances, puisque c'est eux qui ont déstabilisé la Libye et créé cette situation, de prendre les responsabilités pour régler cette question. L'Europe doit avoir une position commune sur la question qui concerne la Libye, de manière à ce que nous puissions trouver une solution définitive qui permettent de fermer l'approvisionnement de ces groupes terroristes.
Le président du Faso a expliqué la nécessité de renforcer au plus vite les questions de développement afin que les populations du Sahel le constatent sur le terrain. Un avis partagé par la chancelière allemande. Il faut même aller vite, indique Angela Merkel.
Nous, en Europe, nous devons être plus réactifs, devons agir plus rapidement. Beaucoup trop de projets de développement ne peuvent pas être mis en œuvre, ce qui fait que dans le domaine de la coopération pour le développement, nous devons réfléchir comment investir davantage. L'autorité du bassin du Niger bénéficiera encore fort de 60 millions d'euros supplémentaires, mais nous devons réunir nos efforts dans son ensemble. Et les terroristes agissent rapidement. C'est pour cela que nous devons encore réagir davantage rapidement pour ne pas être vaincus. Donc, solution politique en Libye, c'est d'une importance primordiale, car la Libye, c'est toujours un taureau de nouvelles menaces terroristes.
Les présidents du G5 Sahel ont apprécié les discussions avec la chancelière allemande, auprès de qui le président du Faso a obtenu la formation de militaires burkinabés et la dotation de l'armée en équipement. L'occasion pour le président Kabore de rappeler l'excellence de la coopération germano-burkinabé.
Il est bon de rappeler que l'Allemagne intervient au Burkina Faso dans les domaines de l'agriculture, de l'eau, de l'assainissement, de la décentralisation et de la promotion des droits de l'enfant et de la gouvernance. J'ai également présenté à mon hôte le point de la situation humanitaire. L'Allemagne a annoncé une aide de 46 millions d'euros qui devait nous permettre de mieux prendre en charge la question sécuritaire et conduire des actions qui aideront à renforcer la résilience des populations dans ces zones.
Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
L'Afrique du Sud tient le 8 mai des élections législatives. Le parti qui obtiendra la majorité choisira le futur président. Ces dernières années, l'ANC, le parti de Nelson Mandela, a perdu du terrain après de nombreux scandales de corruption éclaboussant Jacob Zuma. Est-ce que ces scandales à répétition auront de l'effet sur ce scrutin? Idriss Fall a joint à Cape Town Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
Absolument, ces scandales auront un effet, comme ils avaient déjà eu un effet en 2016 lors des élections municipales où l'ANC avait perdu le pourcentage de support. 5 ans plus tôt, l'ANC avait obtenu 62% dans les élections municipales, mais en 2016, ils étaient à 53%. Il est clairement établi que c'est à cause justement de tous ces problèmes de corruption qui caractérisaient le pouvoir de Jacob Zuma.
Même l'ANC ne risque pas de perdre aux législatives parce que le vote, il est plutôt ethnique ou noir, si j'ose dire.
En fait, d'après les projections qui sont faites, il est clair que l'ANC va gagner. Il n'y a pas crainte qu'il perde. Mais la question qu'on se pose, c'est à quel pourcentage, ils vont obtenir quelle portion. Est-ce que ça sera encore une baisse? Les gens s'attendent effectivement qu'il y ait une baisse, pas nécessairement en faveur de l'Alliance démocratique, certainement ils peuvent en bénéficier, mais aussi de IFF, donc le, il s'appelle le combattant pour la liberté économique.
De Julius Malema, le bouillant Julius Malema.
Voilà, en fait c'est lui qui est vraiment le vrai compétiteur, parce que lui et l'ANC partagent l'électorat noir. Vous parliez du vote ethnique, effectivement, à ce niveau-là, Malema peut réduire la marge de l'ANC. Mais d'autre part, le deuxième grand parti d'opposition, donc l'Alliance démocratique, a aussi eu des problèmes assez sérieux avec son plus grand leader, si je peux parler en termes des races métisses. Celle-là a été, elle a traîné le parti au tribunal à cause de certains désagréments entre eux, et ça a fait beaucoup de bruit, et ça, elle a même quitté le parti pour former un autre parti qui s'appelle Good Party. Donc, si je dois traduire aussi, c'est Bon Parti. Ça aussi, ça va affecter le deuxième plus grand parti, et tout cela rend les élections de la semaine prochaine très complexe à prédire.
Mais malgré tout, on est sûr que M. Cyril Ramaphosa, à l'arrivée, va redevenir président de l'Afrique du Sud.
Absolument. Il sera président de l'Afrique du Sud. L'ANC a encore beaucoup de popularité. Vous l'avez bien dit, dans les milieux les plus pauvres, il y a le système très socialiste qu'ils ont mis en place, où on donne des subsides aux plus pauvres, les femmes enceintes jusqu'à un certain âge. On essaie de construire des maisons pour les plus pauvres, les plus démunis. Et tout ça, ça aura un impact. Mais n'oubliez pas aussi le poids de l'apartheid. Bien que c'est 25 ans après les premières élections, les gens ont encore en mémoire le système d'apartheid. Et comme l'ANC, c'est le parti qui les a libérés de l'apartheid, il y a encore une grande sympathie vis-à-vis de ce parti, malgré tout ce qu'il y a comme bévue, particulièrement sous Zuma.
Denis Kadima, directeur exécutif de l'Institut électoral pour le développement durable en Afrique.
La Voix d'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Une page culture. Pour terminer, les membres de la communauté Soninké, très présente au Mali, au Sénégal, en Gambie, mais aussi en Mauritanie, se sont réunis le week-end dernier à Saint-Denis en France pour célébrer les 40 ans de l'Association pour la promotion de la langue et de la culture Soninké. Pour en parler, Ekiabadou, adjoint à Paris, Awa Kone, adjointe au maire de la communauté du Pré-Saint-Gervais.
Alors les 40 ans, c'était un moment qui était très, très émouvant. Et ce qui est bien avec la communauté soninké, c'est cette multiculturalité, parce qu'il n'y avait pas que des soninké qui étaient venus. Il y avait aussi l'intergénération. Ça, c'est extraordinaire quand on a toutes ces femmes et tous ces hommes qui étaient présents, parce qu'il y avait des stands à l'extérieur donc du lieu où il y avait des conférences, où il y avait des jeunes chefs d'entreprise beaucoup plus anciens, des personnes qui sont dans le domaine de la littérature, dans le domaine de l'enseignement. Ça donne une dynamique positive, et ça donne aussi l'envie aux nouvelles générations de se lancer dans l'écriture. Donc on sort vraiment de l'oralité pour aller plus dans quelque chose de plus palpable, et donc c'est que du positif.
Début mars, à Bamako, il y a eu la présentation de 3 ouvrages en soninké. Il y a eu cette mobilisation des personnes plus anciennes, plus âgées que vous, qui se sont vraiment enorgueillies, en tout cas qui étaient très fières de voir la solidarité soninké. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez, cette solidarité qu'il y a au sein de votre communauté, au-delà même du Mali, même dans les autres pays?
C'est aussi la raison pour laquelle, depuis 2011 ou 2012, il y a le Festival international soninké. Le soninké, quel que soit l'endroit où il est, il doit être solidaire avec les siens, mais il doit aussi être solidaire avec tous les autres. Il doit s'intégrer dans les sociétés dans lesquelles il vit, tout en étant très attaché à sa culture, très attaché aussi à sa langue, parce que pour nous, c'est un vecteur qui est extrêmement important pour faire passer des messages, pour recevoir aussi, pour donner. Donc le soninké, qu'il soit en France, qu'il soit aux États-Unis, ou quel que soit l'endroit où il est dans le monde, c'est sa culture qui va le guider. Et oui, effectivement, quand on s'enorgueillit, c'est parce qu'on réussit à promouvoir notre culture, ce que l'on est. On ne dénigre pas, parce que les soninké, ce sont des tunkaranko, ce sont des voyageurs qui sont partout dans le monde. Ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine, ils sont au Japon, ils sur l'Afrique du Sud. On dit même qu'il est parti jusqu'à dans la Lune, car Cheikh Modibo Zara, qui a travaillé avec les services aéronautiques américains, a travaillé sur des projets. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il y a même des sonniqués sur la Lune. Donc oui, on s'enorgueille, on en est fiers, et en même temps, on est parfaitement intégré partout où on va.
Alors, est-ce que c'est dans cet esprit-là que vous avez aussi envie de créer cette académie ?
Au niveau de l'académie, donc le projet avance. Ce qu'il y a de bien, c'est que grâce au Festival International Soninké, on peut non seulement toucher les Soninké partout dans le monde, mais également les partenaires publics, les partenaires privés des différents pays où il y a cette communauté. Cette académie-là, elle n'est pas communautaire, elle n'est pas individualiste. Elle est faite effectivement pour continuer la promotion de cette culture-là, mais elle est là aussi pour faire émerger des talents, émerger des savoir-faire et vraiment s'intégrer. Là, cette académie devrait se faire normalement en France, dans la région parisienne.
Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. La mise en onde a été assurée par Firmin Koyaweda et la technique par notre ami Patrick Cadéa.
C'était Raissa Girondin et Jacques Aristide. Excellente suite de programme.
Bienvenue à bord.